Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle. Vous savez, c'est toute l'actualité tech chaque week-end, à la fois sur BFM Business, donc le samedi et le dimanche, à la radio, à la télé, mais aussi sur cette nouvelle chaîne dont nous parlons depuis quelques jours, qui s'appelle Tech & Co et que vous pouvez retrouver sur toutes les box opérateurs. Bienvenue dans De quoi je me mêle et bienvenue ici à Vivatech. Nous sommes ici au cœur donc de ce salon à Paris, Porte de Versailles, ce salon qui célèbre la tech française, mais pas que. On va en parler d'ailleurs dans ce De quoi je me mêle avec une émission spéciale. Merci de nous suivre. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous rejoindre sur Twitter. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et cette semaine, nous avons Anthony Morel avec nous. Salut Anthony.
Salut François.
Anthony, est-ce que tout va bien?
Bah, ça
ici
va bien.
À Vivatech.
Ça ne peut qu'aller bien quand on est ici. On a l'impression d'être chez nous.
Mais c'est vrai.
Bah, je veux dire, on est au milieu de tout ce dont on parle à longueur d'année. Donc voilà, on est à la maison.
On a l'impression d'être dans un immense coffre à jouer. On a les clés et on peut s'amuser.
Exactement ça.
C'est un peu ça. Ouais. Raphaël, t'es bien aussi, toi? Salut, bah, écoute, Raphaël.
Très bien. Salut François, salut Anthony. Bah, parfait. on est parfait. En plus, il y a un peu de monde autour de nous.
Oui,
c'est sympa,
c'est
ça nous change un peu. On est à domicile, alors en plus, on n'est pas très loin de la maison au sens propre, puisqu'on est quand même à 5 minutes à pied des studios.
Voilà.
Mais non, c'est clair, c'est sympa d'avoir tous les acteurs, pas mal d'acteurs français aussi. C'est sympa de pouvoir les voir, et il y a plein de gens avec qui on communique en tant que journaliste toute l'année et qu'on peut voir physiquement, c'est aussi très sympa.
C'est important de pouvoir rencontrer la profession, bien sûr, et puis surtout de vous raconter tout ce qu'on voit, parce que c'est ce qu'on va faire pour cette première partie de Quoi je me mêle. Tout à l'heure, on évoquera la e-santé. Gros sujet aussi, la e-santé très présente. Hein. Comment on peut prévenir des problèmes de santé? Comment on peut éviter d'engorger les hôpitaux, etc. C'est un sujet un peu sérieux, mais vous verrez, très tech. Et on en parlera, entre autres, avec Paris Santé Campus, qui est justement pas loin, d'ailleurs, et qui a ouvert un centre pour aider les startups dans ce domaine. Mais donc, Vivatech, messieurs, Anthony, peut-être commencer par toi, parce que tu y es depuis le début, comme Raphaël, d'ailleurs. J'aimerais te demander ton avis sur cette sixième édition de ce Vivatech. Est-ce que tu en as pour ton argent, entre guillemets?
Ouais,
même si je suis sûr que tu n'as pas payé très cher la place.
Non, ça c'est vrai, c'est l'avantage qu'on a, effectivement. mais je dirais que c'est rentable quand même. Oui, parce que si tu veux, moi ce qui me plaît ici, c'est que j'ai l'impression que c'est un concentré de la vie du futur. C'est-à-dire que vraiment, tu vas voir la façon dont on se déplacera demain, dont on se soignera demain, dont on travaillera demain, dont on consommera également. J'ai toutes les thématiques dont on parle régulièrement, mais là, tu as des innovations qui sont très concrètes. On peut en prendre quelques-unes, tu vois, pour illustrer. Sur les modes de mobilité, il y a plein de choses. C'est une des grandes thématiques de Vivatech cette année, qui vont, j'allais dire, du gadget jusqu'à des trucs très structurels. Le gadget, même si c'est un peu plus qu'un gadget, vous l'avez peut-être essayé, là, c'est le scooter gonflable. Ça, moi,
alors, mais attends,
mais c'est génial.
Je sens que Raphaël, alors je ne sais pas si Raphaël
l'a testé ou pas,
l'a testé, mais j'ai vu que Victoria l'avait testé.
Victoria l'a testé, Victoria Bonnez.
Voilà,
qui fait partie de ton équipe. Exactement. Je ne l'ai pas testé, je l'ai vu passer.
Il n'a pas osé.
Il faut que tu essayes.
Oui, j'appréhende un peu le fait de devoir regonfler. Aujourd'hui, on doit regonfler son pneu. Demain, il faut regonfler sa moto.
Ah oui, si tu crèves, tu crèves, voilà, littéralement.
Si on
c'est
crève, on crève tout.
On est d'accord.
Voilà. Mais
tu dégonfles, en fait.
Tu dégonfles.
Tu dégonfles.
On se dégonfle au sens propre. Mais oui, c'est assez marrant.
C'est pas mal. Donc, en gros, tu as le truc qui tient quand même dans un sac à dos. C'est comme un matelas gonflable. Tu sors une pompe. En une minute, le truc se gonfle et prend la forme. Alors, quand on dit un scooter, bon, ça a quand même une allure de... C'est un truc un peu cubique, un peu pas super joli, si tu veux.
On prend pas l'autoroute,
on est d'accord. On est plus proche de la trottinette, je pense, en termes de vitesse, etc. Mais c'est quand même assez malin. Ça tient dans le sac à dos. Donc, c'est hyper pratique. C'est très léger, beaucoup plus qu'un vélo électrique. En cas d'accident, bah, le choc est beaucoup moins violent aussi.
En fait, tu es sur un airbag.
Exactement, tu es sur un airbag. Donc c'est malin, si tu veux. Il y a un côté gadget, mais c'est malin.
En revanche,
le genre de truc
si quelqu'un
que tu
te bump, tu te retrouves à 500 mètres en propulsion, non?
C'est possible.
Si tout le monde a ça, on va tous partir en l'air.
D'immenses autotamponneuses.
C'est les autotamponneuses, mais pour de vrai, finalement. Bon, c'est un des objets. Voilà. Et si tu vas vers les trucs un peu plus structurants ou et peut-être plus futuriste aussi, c'est les fameux taxis volants dont on parle assez régulièrement. Oui. Là, il y en a un exemple, c'est le Volocity, un Volocopter. C'est peut-être la marque qui est en train de structurer tout le marché en ce moment.
C'est impressionnant, ce truc-là.
Hyper impressionnant.
Mais en plus, là, il est en taille réelle.
Il est en taille réelle.
C'est monstrueux.
C'est le vrai. Il n'a pas encore décollé, on ne l'a pas vu. Je ne suis pas sûr qu'il s'est prévu de faire décoller dans le salon.
Il est censé décoller pour les JO de 2024.
Absolument.
Et c'est du concret, parce qu'il a eu des autorisations par les agences européennes. Il y a un accord avec ADP, avec la RATP, donc c'est du concret. Il y a des vrais essais. Enfin, il y a des tests d'ailleurs. Il y a eu des milliers d'heures de tests. Et normalement, c'est la promesse.
Ça, c'est du vrai. C'est du réel.
Ça, c'est du vrai. Voilà. Et c'est de pouvoir l'avoir pour les JO 2024. Alors, on n'en aura pas partout au-dessus de Paris, mais en principe, on devrait le voir voler pour les JO. Donc, exactement, ça va arriver vite.
Messieurs, juste, alors je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça fait combien d'années qu'on nous parle de ces volocoptères, de ces drones électriques, autonomes?
Moi, je me souviens Jules Verne, en fait.
Ouais, non, mais c'est, je suis d'accord.
C'était les dirigeables aussi.
Bah, Léonard de Vinci. Léonard de Vinci,
c'est
voilà.
Vrai, tu as raison.
Non, mais je comprends ce que
non,
tu veux dire,
par là,
François,
c'est que c'est pas que je suis lassé, je suis toujours enthousiaste, mais ça fait tellement d'années qu'on nous promet que ça sort l'année d'après que je commence à être un peu dubitatif.
Mais en fait, là, ce qu'on voit, et c'est ce que tu disais, Raphaël, il y a vraiment des trucs qui sont en train de se structurer avec des vrais tests qui sont réalisés, avec des vrais vertiports qui sont en train d'être testés. Je crois que c'est du côté de Pontoise, aéroport de Paris, avec Volocopter et d'autres partenaires sont en train de tester ça. Il y a des autorisations, effectivement, il y a des dates, des échéances. Là, je pense qu'on y va. Voilà. Alors après, la question, c'est est-ce que ça deviendra un truc vraiment mainstream? Est-ce que ça va réellement se développer? Ou est-ce que ces expérimentations, finalement, les gens vont dire « Ah ben non, j'en ai marre, je veux pas avoir de pollution visuelle, je veux pas avoir de pollution sonore ». Ça, il y a plein de questions qui vont se poser. Mais en tout cas, on va les voir arriver.
Le modèle économique aussi. Combien ça va coûter de se faire? Parce que l'idée, il faut pas se voiler la face, c'est le fait de faire Paris-Roissy en un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. On est d'accord. Ce qui
c'est pour ça que ça intéresse à des prix,
irréalisable.
Bien totalement. Sûr. Mais effectivement, après, il ne faut pas qu'il y ait un peu l'effet Frankie Zapata, c'est-à-dire qu'on voit l'engin décoller, on l'avait vu pour le 14 juillet comme quelque chose d'assez exceptionnel.
Oui.
Si on en voit un pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024, pour moi, ce sera un échec, parce que ce sera juste pour le spectacle, mais derrière, il n'y aura aucune application concrète. Si on en voit quelques-uns voler régulièrement, comme on peut avoir Ubercopter pendant des festivals, notamment le Festival de Cannes, on se dirait qu'il y a peut-être le début de quelque chose de concret. Si c'est juste un effet waouh, voilà, pour la cérémonie d'ouverture, bon, ce sera, je pense qu'on passera à autre chose.
On est d'accord.
C'est pas le seul prototype, en tout cas le seul objet volant identifié qui est présenté ici. Tu m'as parlé d'un Jetson, c'est ça ou c'est autre chose?
Ouais, non, c'est encore un autre truc, le Jetson, c'est assez dingue aussi. Moi, j'adore. C'est, en fait, c'est un mini hélicoptère individuel. Non, mais c'est compliqué parce que c'est tellement des trucs un peu hybrides maintenant qu'on a du mal à les décrire, à les définir. Bah, tu vois les drones Parrot ou DJI que tu achètes dans le commerce.
Ouais.
Hein, bon, bah, c'est le même.
Avec les hélices tout autour
avec
du drone.
Les hélices tout autour, exactement, quadricoptère. Bah, c'est le même, mais en plus grand, avec la place pour accueillir un pilote. Et tu vas pouvoir décoller avec. Et,
c'est un Twizy volant, quoi.
C'est un Twizy, ouais, c'est un Twizy.
Non, mais c'est
volant.
Ça.
Ouais, c'est vrai,
t'as
raison.
Le petit truc de Renault, là.
Exactement.
C'est un véhicule électrique à hélice. Et donc, les gars imaginent, alors c'est une boîte suédoise, que cet appareil pourrait arriver dans les centres-villes d'ici quelques années. Alors, je sais pas. Moi, je crois qu'en termes de réglementation, il s'avance beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que l'appareil, aujourd'hui, il est en précommande. Tu peux l'acheter. Il sort l'an prochain, 80 000 euros, hein, quand même. Donc, il faut se faire plaisir.
80 000 euros, mais tu as le droit. Il faudra que tu fasses une formation. Il faut être pilote.
Non, alors,
parce que ça pose évidemment.
En théorie, t'as pas, de ce qu'ils me disent, tu n'as pas besoin de brevet de pilote. Ça se pilote en 5 minutes, un peu comme un jouet. Après, je demande à voir en France comment tu peux l'utiliser. Moi, à mon avis, c'est impossible. Voilà. Mais
disons que quand on regarde le drone de Snapchat, le Pixie, qui mesure 10 cm, en fait, techniquement,
Victoria qui était obligée de courir après.
C'est ça. Non, mais ce drone de 10 cm, on a le droit de l'utiliser nulle part en France.
Ouais.
Donc, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse demain utiliser ce type d'appareil en France. Ça me paraît totalement impossible et encore moins. En zone urbaine.
En zone urbaine.
Donc autant le volocoptère très encadré sur des trajets indiqués, pourquoi pas. Autant là, ça va peut-être être testé, je sais pas, comme d'habitude, par la police à Dubaï pour faire des belles vidéos. Mais là, j'ai du mal à voir vraiment l'application.
Et puis, pour revenir peut-être au volocoptère qu'on évoquait tout à l'heure, il y a aussi la problématique de l'autonomie totale de ce type de produit, parce que c'est ce qu'ils évoquent à long terme. C'est-à-dire qu'au début, on aurait quelqu'un, après, il y aurait peut-être un opérateur qui piloterait le truc, mais après, ça serait autonome. Donc, il y a plusieurs phases.
Bien sûr.
Et ça, bon, voilà, ça pose des problèmes aussi, on va dire, presque philosophiques. Est-ce qu'on est prêt à monter dans un appareil qui serait piloté par l'intelligence artificielle.
Même déjà par un pilote qui n'est pas dans l'appareil. Déjà par un pilote à distance.
Par un opérateur.
Par un opérateur qui n'est pas lui-même présent dans l'appareil, c'est déjà quelque chose.
Mais moi, je pense que ce seuil psychologique, il va être dépassé avec le temps. C'est une question... Tu vois, c'est comme la voiture autonome.
Oui.
La voiture autonome, on est, je pense, tous les trois montés déjà dans une voiture autonome, on a cette chance. Et en fait, une voiture autonome, au bout de 5 minutes, tu oublies qu'elle est autonome.
Oui, non, c'est vrai.
C'est ça, la réalité, c'est ça. Donc, c'est vrai, moi, je te le dis, franchement, j'ai un peu le vertige et tout. Je suis pas sûr que demain, je monterai dans un volocoptère sans pilote. Voilà, je te le dis. Mais ça veut pas dire que, tu vois, au fil du temps, ça va se faire naturellement, en réalité.
Mais j'aurais peut-être moins peur, moi, de monter dans un volocoptère, dans un drone volant, que dans une voiture autonome, parce que finalement, les sources de danger. Oh. Elles sont peut-être moins importantes, notamment les sources de collision.
Ouais. Non, mais c'est sûrement... À mon avis, les accidents seront plus mortels.
Ah ouais, c'est clair.
Non, l'accident, là, c'est clair. Mais par contre, je pense que finalement, les risques sont peut-être moins importants, comme souvent d'ailleurs dans l'aérien, que dans le terrestre.
Si tu prends ça de manière très rationnelle, tu as raison.
Si on reste vraiment rationnel.
c'est la hauteur, moi, qui me stresse un peu.
Après, faut y aller, quoi.
Voilà, faut y aller.
C'est ça.
Bon, tu sais, tu as toujours ce truc où tu demandes, tu as des études qui sont faites auprès des Français sur est-ce que vous seriez prêt à monter dans une voiture autonome, dans un avion sans pilote. Et à chaque fois, c'est genre, tu as la plupart qui disent oui. Mais la question, c'est est-ce que vous seriez prêt à monter une fois dans votre vie. Mais on précise pas quand, tu vois. C'est genre
si c'est demain,
je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr qu'on soit à plus de 50%.
Bon, on verra. En matière de mobilité ou autre, alors bon, je sais qu'en mobilité, t'avais vu aussi un pneu qui était increvable.
Ouais,
je
c'est
crois.
Assez dingue. Oui, alors c'est The Tire Company qui présente ça. C'est une technologie qui est utilisée par la NASA. C'est déjà utilisé sur les missions sur Mars, par exemple. Et c'est un pneu qui est très étonnant, qui est en fait. Tu vois les cottes de mailles des chevaliers du Moyen-Âge, c'est exactement ça en fait. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est une cotte de mailles, mais en forme de pneu, mais extrêmement légère, parce que le matériau, j'ai plus le nom du matériau en tête, mais c'est un matériau, un composite extrêmement léger. Et tu vas pouvoir, disent-ils, reproduire ce qui est utilisé aujourd'hui sur les missions martiennes pour des vélos. Donc un vélo incroyable ou même des voitures. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et ça aussi, on peut le voir, vous pouvez le voir, le toucher ici à Vivatech, ce pneu.
Je suis le chef operating officer de Michelin. Je vais vite voir ce qui se passe quand même.
Oui, parce je pense qu'ils ont déjà regardé.
Ils ont déjà
étudié le rachat potentiel ou pas, je pense.
C'est ça.
Et pas que.
Ils ont aussi des pneus incroyables d'ailleurs, Michelin. Enfin,
oui,
tout le monde travaille sur le sujet.
Enfin, qui ne sont pas tout à fait incroyables d'ailleurs.
Non.
Il existe déjà des trucs.
Il faut quand même les remplacer, sinon le business model, il n'est pas terrible.
Mais voilà, c'est ça.
Si on ne les remplace plus.
Raphaël, exactement. Qu'est-ce que tu as vu, toi, de sympa, ici à Vivatech?
Moi, il y a des choses qui m'ont interpellé. Alors déjà, il y a un petit truc, c'est qu'on voit maintenant des casques VR à tous les coins de rue. Il y a toutes les boîtes, maintenant, sur un stand, il faut avoir son casque VR avec des applications, parfois, qui ont, on va dire, plus ou moins de sens. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Enfin, deux choses. Déjà, sur le stand de Meta, Facebook, Instagram, il n'y a pas une trace de Facebook et Instagram. C'est-à-dire que Meta, c'est uniquement de la VR... Ouais. Du produit, on n'a aucune trace de Facebook et Instagram. Je trouve que c'est quand même symbolique que sur le stand de Meta, on ne parle pas de ce qui fait 99,9%
du business. De l'activité de Meta.
Exactement. Et il y a un autre élément très important, je trouve, et très symbolique, c'est le stand le plus gros du salon, c'est LVMH. Moi, c'est ça qui m'a marqué. C'est que finalement, on a le stand de Microsoft qui est pas mal, le stand de Google qui est assez gros, le stand de Meta qui est franchement très sympa. Mais alors, le stand de LVMH, il est monumental.
C'est l'équivalent de Samsung au CES.
Exactement. Et le fait que ce soit LVMH qui finalement domine ce salon, c'est pas anecdotique. Ça montre en fait aussi quelque part que tous les sujets dont on parle, et quand je dis LVMH, il y a plein de boîtes aussi auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais
t'as L'Oréal aussi.
Il y a L'Oréal.
Très gros stand.
Et finalement, ça montre bien que ces sujets tech deviennent vraiment transversaux. C'est-à-dire que maintenant, tout est transversal. La tech, c'est absolument partout. Et alors évidemment, on est à Paris, donc LVMH à Paris, c'est normal qu'ils soient les mieux représentés. Mais je trouve que finalement, les mieux représentés, ce sont plus tellement les boîtes qui sont spécialisées dans la tech, parce que c'est plus là, alors c'est évidemment là où ça se passe, mais plus seulement. Et maintenant, on a des budgets colossaux ailleurs.
Mais bien sûr, mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Raphaël. Et puis, ça veut dire aussi que la tech et tous les éléments dont on parle, l'intelligence artificielle, tous les sujets liés à la blockchain, etc., s'infiltre d'une certaine manière dans tous les secteurs. Et le secteur du luxe en fait évidemment partie. Il y a tout ce qu'on appelle la beauty tech, donc effectivement LVMH, L'Oréal, c'est des applications où tu prends un selfie, ça va analyser la qualité de ta peau et ça va te dire quel produit acheter. C'est des
rouge
à lèvres où tu prends une photo d'une robe et tu vas avoir la teinte exacte du rouge à lèvres que tu vas acheter derrière. Enfin, c'est que des trucs comme ça.
Et puis la Poste aussi. Quand on voit la Poste, le stand de la Poste est hyper sympa parce que l'avenir de la livraison,
T'as vu leur robot là ?
Leur robot, c'est ça, des robots qui vont livrer ou au moins faire une partie de la livraison. Et ça, je pense qu'on s'approche sur des modèles hybrides, parce qu'on voit que la livraison totalement autonome dans des villes comme Paris, c'est très compliqué. Mais sur des modèles hybrides comme ça, c'est intéressant. Mmh. Et là, on parle de concret. Là, c'est du concret. Et ça, c'est des stands, c'est des boîtes qu'on n'aurait pas forcément, alors qu'ils sont sur les salons tech depuis un moment, mais qu'on voit monter en puissance. Et de façon générale, je trouve que VivaTech monte pas mal en puissance. Alors, il y a eu deux éditions précédentes qui, forcément, avec le Covid, étaient très compliquées. Mais par rapport à la première édition, on avait des petits stands un peu bricolés. Là, alors évidemment, ouais, ce n'est pas le CES parce qu'il y a un seul hall. Mais par contre, ce hall, il y a des vrais grands stands. Et on sent que c'est un salon qui monte en puissance, donc c'est intéressant. Et c'est bien d'avoir ça à Paris.
Ouais. Oui, Anthony.
Si on reste sur les coups de cœur, mais pour s'évader un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'on parlait de la vie concrète, mais il y a aussi des trucs qui font vraiment rêver. Moi, il y a un truc que j'adore. C'est un peu mon coup de cœur. C'est une boîte, même le nom me fait rêver, c'est Interstellar Lab. Je ne sais pas si tu les as croisés, non ? Tu vois ce que c'est, François ?
Alors, moi, j'ai eu la chance de les avoir reçus. Même dans Tech & Co à Montpellier, parce que c'est une boîte qui vient de Montpellier.
Et Interstellar, ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des, alors ils appellent ça des biodômes, et en fait ce sont des serres qu'on pourrait installer sur la Lune ou sur Mars pour les futures missions habitées, et où on pourrait faire pousser des végétaux, voilà, en hydroponie. Donc en gros ils ont tout un système, donc tu peux les monter en kit très facilement, ça peut tenir dans une capsule Dragon de SpaceX, tu montes ça. T'as un système où, avec très très peu d'eau et des nutriments, tu vas alimenter les végétaux qui vont pousser. Et en fait, ça fait rêver parce que ça préfigure la vie de demain ou d'après-demain, les missions habitées. Enfin,
parce qu'avant d'arriver sur la Lune ou sur Mars, il va falloir créer un écosystème pour qu'on puisse, quand on arrive, vivre.
Et ça, il faut dire que tout ce business, ce qu'on appelle le New Space, donc toutes les startups et les entreprises qui s'emparent du futur de la conquête spatiale, mais en France, on a des boîtes qui sont très très en pointe sur ces sujets-là. Ils travaillent avec la NASA, ils travaillent avec le CNES, ils ont dans leurs salariés des anciens de SpaceX ou de Blue Origin. On pèse, là-dedans, on pèse. C'est important de le dire aussi. Voilà.
C'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toutes ces habitations qui sont faites pour vivre, faire survivre des humains dans des milieux hostiles, ça peut avoir du sens aussi sur Terre. Oui. Je ne sais pas si ils t'en ont parlé, mais par exemple, même sous l'eau, en fait, ils créent des habitats gonflables qui permettent de vivre dans des milieux hostiles. Et les milieux hostiles, c'est sous l'eau, par exemple, dans les déserts, ou même, par exemple, sur d'autres planètes. Et c'est vraiment très, très fort, ce truc-là. Ouais,
c'est génial.
De toute façon, ce qu'on voit en général dans l'espace, c'est testé sous l'eau avant. On le voit bien avec les exercices, les navettes, les réparations, et bien etc. Sûr. Et ça, c'est clair que ça va être, à mon avis... Enfin, cette boîte, je l'ai vu passer aussi. J'ai vu ce qu'il faisait. Je trouve que c'est assez passionnant. Si Elon Musk passe dans le coin, je pense qu'il pourrait... Parce qu'effectivement, on dit souvent les fusées. Bon, faut faire les fusées. Enfin, une fois qu'on arrive sur la Lune ou sur Mars, il faut avoir d'autres choses en stock pour pouvoir rester, c'est clair.
Mais c'est clair. Mais en tout cas, voilà.
Il lui reste un peu d'argent après Twitter, là. Il y a encore quelques milliards à mettre.
Avec la chute de la bourse, là, je pense qu'il va...
Ça devient chaud, là.
Ouais, même à VivaTech, on parle d'Elon Musk alors qu'il n'est pas venu. Hein.
Ah, mais c'est vrai. Encore le bingo. On avait dit qu'on faisait une tirelire.
Oui, c'est vrai.
À chaque fois qu'on disait Elon Musk.
Mais ouais.
C'est vrai.
Il faut vraiment qu'on le fasse.
Ouais. On met un bitcoin à chaque fois. Bon, dans 6 mois, ça va.
Ce sera un euro. C'est bon.
Ce sera un euro.
Tout non, de suite.
On est vache avec les cryptos.
Là.
Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Anthony ? Tu as vu plein de trucs. Tu as vu, par exemple, tiens, il y a la santé aussi qui est hyper représentée ici. On en parlera dans la deuxième partie de Quoi je mêle. On vous réserve une partie santé. Il y a pas mal de choses, hein, que ce soit des bagues assistantes médicales, mais aussi des cabines de téléconsultation. Ouais. Il y a plein de choses qui sont en train de révolutionner notre santé.
Bien sûr. Alors sur le côté bagues, moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des montres connectées qui de plus en plus ont des fonctionnalités. C'est vrai, à l'origine c'était des podomètres améliorés et maintenant, tu as une Apple Watch, tu as des fonctionnalités quand même qui sont très poussées de santé. Et maintenant on a pas mal de startups qui essayent d'intégrer ça dans des bagues, donc dans des objets encore plus petits qui vont peut-être être plus pratiques, qu'on va pas forcément enlever la nuit par exemple, donc qui vont analyser aussi la façon dont on dort, qui vont faire remonter tout un tas d'informations. Là, c'est une boîte qui s'appelle Circular, c'est des Français qui font ça. Mais c'est pas les seuls. Hein. Aux États-Unis, tu en as une autre qui s'appelle Oura, si je dis pas de bêtises. La NBA, au moment du Covid, parce que, alors, je sais pas si ça a été validé scientifiquement ensuite, Mais en tout cas, on avait déterminé qu'avec cette bague, on pouvait détecter des signes avant-coureurs du Covid sur les variations de rythme cardiaque, ce genre de choses. Et donc, la NBA en avait commandé pour tous les joueurs avant la reprise du championnat.
Pas mal.
Après, je ne sais pas ce que ça avait donné derrière. Je n'avais pas plus suivi que ça. Mais tu vois, c'est pour te dire l'idée. C'est d'avoir
parce que cette bague détecte aussi la température et le taux d'oxygénation du sang, qui sont deux paramètres
le
importants.
Le facteur hyper important, forcément,
quand
pour le
Covid. Quand tu es victime du Covid. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Je rajouterais qu'en plus, une bague a un avantage, c'est que comme elle te serre le doigt, elle arrive à avoir plus de données santé qu'un bracelet qui souvent flotte, tu vois. Ah et oui, donc, tu peux avoir une captation de la fréquence cardiaque qui est plus précise. La température, capter la température de quelqu'un avec une montre, c'est très compliqué parce que ta montre bouge. Elle est souvent, y a un peu d'air qui passe entre ta peau et la montre. C'est très compliqué avec une bague qui forcément, par la force des choses, te serre le doigt. Eh bien, c'est quelque chose de très malin pour capter tes, on va dire, certaines composantes de ta santé. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ?
Écoute, alors tu parlais de cabine de téléconsultation. Il y a aussi une boîte française qui s'appelle Bodio qui fait des cabines. Alors c'est vraiment malin. C'est une cabine qui te permet de faire un check-up complet en 6 minutes chrono. Donc tu vois la cabine, tu entres, c'est vraiment hyper futuriste, ça me fait penser moi, tu sais, dans Prometheus, le film.
Ah oui, quand tu rentres, oui.
Alors ça t'opère pas encore instantanément
tout seul.
Ouais. Bon, peut-être ce sera
c'est
la prochaine étape.
C'est là où ils attaquent au laser, ils font l'incision au laser et tout, c'est génial.
Elle est incroyable cette
scène. Et après ça tombe en panne.
Ouais, c'est ça, c'est pas forcément au bon moment. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est une cabine un peu comme ça, tu rentres et donc tu as plein de capteurs et plein d'instruments qui vont prendre tout un tas de mesures. Tu fais un check-up extrêmement rapide. S'il y a besoin, tu peux entrer. Il y a un écran géant en visioconférence avec un médecin. Et ça, en fait, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ce genre de choses. C'est hyper intéressant parce que ça permet de répondre en partie au problème des déserts médicaux parce que tu peux installer ça absolument n'importe où. Et tu as une sorte de diagnostic ou de pré-diagnostic en direct de manière extrêmement simple.
Et moi, je trouve que c'est super parce que c'est vrai que, évidemment, des fois, on va chez le médecin parce qu'on a quelque chose d'assez sérieux. Mais souvent, c'est pour se rassurer, pour avoir une prise de tension, tu vois, quelque chose comme ça, enfin, quelques composantes de ta santé. Et si on arrive à voir ça sans avoir vraiment un médecin qui soit là en train de te surveiller, etc., et que c'est validé, bien évidemment, médicalement, c'est top, je trouve.
Oui, et puis tu parlais des déserts médicaux, ça va aller en s'aggravant. C'est clair que c'est des outils comme ça, c'est intéressant. Enfin, c'est clair que ça, dans les pharmacies, on met ça dans les pharmacies. En plus, comme ça, c'est chapeauté par un pharmacien. S'il y a un médecin à distance, derrière le pharmacien, il peut délivrer les médicaments. Et donc aujourd'hui, on voit que la pharmacie peut devenir un point d'accès pour ce type de traitement à distance ou d'examen à distance. Et c'est vrai que finalement, aujourd'hui, avec des machines comme ça, on peut avoir, quand on voit déjà qu'avec une bague, une montre connectée, on peut avoir quand même certaines composantes de la santé, notamment l'ECG qui est quand même assez précis.
Bien sûr.
On imagine bien qu'avec une capsule comme ça, on pourra avoir une batterie de tests basiques qui vont peut-être aussi désengorger un peu les urgences et certains cabinets médicaux. Et donc, c'est vrai que le lien avec le médecin, c'est important pour certains. N'empêche que c'est un fait, il y a des déserts médicaux. Et la pharmacie, par exemple, ou d'ailleurs peut-être un autre endroit, mais ça peut être un bon point d'accès avec ce type d'appareil.
Après, ça demande aussi pas mal de réflexion et voilà, parce que c'est vrai que c'est important de sanctuariser le rendez-vous chez le médecin. Là, tu remets en cause en fait pas mal de choses. Mais en revanche, ça libère évidemment du temps pour des médecins pour des choses plus graves. Enfin voilà, ça a aussi un intérêt.
Je crois que c'est l'ordre des médecins qui a commencé à gueuler un peu.
Et oui, c'est
parce
obligé.
Que certaines de ces cabines de téléconsultation se sont installées dans des supermarchés. Vous avez vu ça, non ? Chez Monoprix ou
exactement.
Tu vas entre le rayon fromage et le rayon charcuterie.
Mais tu sais quoi, tu as raison.
À Montparnasse.
Mais si ça peut t'éviter
de
faire un AVC,
si
ça peut te permettre d'être pris en charge parce que c'est un AVC,
je suis d'accord.
Je suis désolé, moi, que ce soit chez Monoprix ou ailleurs, je pense qu'il faut, à partir du moment aujourd'hui, on a des téléconsultations qui sont remboursées et qu'on fait sur son smartphone, et pour le coup, sa téléconsultation sur son smartphone, on peut le faire chez Monoprix entre le rayon charcuterie et le fromage, et c'est pas pour ça qu'elle sera pas remboursée. Donc à partir du moment où on fait une téléconsultation sur un smartphone partout, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce type d'examen partout.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a une partie...
Puis avoir du cholestérol à côté du rayon. Mais
après, il y a tous les...
charcuterie et fromage. Là, c'est un peu normal.
Mais c'est pas bon pour le business, parce que le mec, après, tu culpabilises et tu vas au rayon graines.
Tu reposes ton jambon et tu reposes ton roquefort.
Déjà, on voit si on a perdu l'odorat ou pas. C'est déjà un bon début.
C'est un bon début. C'est avant de rentrer dans la cabine.
Rapprochez-vous du roquefort. Est-ce que vous sentez quelque chose?
Est-ce que vous en sentez? Bon, très bien, vous n'avez pas le Covid. On plaisante, mais
c'est vrai, c'est une petite révolution.
Faudra aller à l'encontre de certains corporatismes. C'est sûr.
C'est vrai. Bon, et moi, j'ai donné tous mes coups de cœur, là, mais vous en avez... C'est quoi, si vous devez en retenir un, là, hein, chacun? Alors, j'ai dit Interstellar pour moi, alors je vous écoute maintenant.
Moi, j'en ai un. Après, évidemment, Raphaël, je te laisserai la parole. Moi, j'ai vu un truc très sympa. À la RATP, ils testent le robot Boston Dynamics. Vous voyez le robot chien?
Je l'ai croisé. Ouais.
Alors, il est tout jaune, il est très beau, toujours très cool. D'ailleurs, dans Tech & Co, avant-hier, il était sur le plateau de cette émission, en plein milieu, là. Et alors, tu te dis, mais pourquoi la RATP fait appel à ce robot? Eh bien, en fait, c'est un robot qui va faciliter la maintenance des voies ferrées de la RATP. Ouais. Et c'est très intéressant parce que, finalement, c'est un petit truc, ce chien, finalement, par rapport à un humain, il peut se faufiler à des endroits difficilement accessibles aux humains. Ce sont des tâches très répétitives que, finalement, un opérateur peut vérifier depuis une salle, tu vois. Il lance 2-3 chiens qui se baladent sur les voies ferrées pour voir s'il y a des problèmes, etc. Et je trouve que c'est plutôt malin.
Ouais, c'est malin.
Ils testent ça. Premier retour d'expérience en juin pour voir ce que ça donne. Mais je parlais avec la maman de ce projet qui disait que, voilà, c'était intéressant. À un moment, j'ai voulu la pousser un petit peu dans ses derniers retranchements en lui disant, vous allez faire comme à New York, vous allez accompagner on va dire le personnel de la RATP dans les stations, les métros. Elle a dit non, ça c'est pas prévu quand même, donc on va pas aller jusque là.
Ouais, c'est pas mal effectivement.
C'est pas mal, hein. Mais enfin, des petits coups de cœur, voilà, il y en a plein, il y a plein de choses sympas ici.
Raphaël?
Non, moi il y a une boîte que j'ai bien aimée qui s'appelle Lito, oui, et qui fait de l'impression 3D de tableaux. J'ai trouvé le résultat, alors je crois d'ailleurs que c'est hébergé chez LVMH, je suis pas sûr à 100%, et honnêtement, alors je suis pas du tout un spécialiste de l'art, mais je trouve que le résultat est assez bluffant. Alors peut-être pas imiter la Joconde, mais sur certains tableaux, je trouve que c'est assez réussi. Et pour avoir comme ça des tableaux qui ont vraiment cette impression d'être peints à la main,
t'as les traces en fait, c'est
exactement, on a vraiment les traces du pinceau qui sont restituées.
Énorme.
Et j'ai trouvé honnêtement le résultat assez bluffant. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et sinon, une autre marque, et d'ailleurs c'est juste derrière nous, c'est Huawei. D'ailleurs, je sais pas si on le voit, mais on est vraiment en face du stand de Huawei.
Ouais.
Je trouve ça intéressant. Je trouve ça assez intéressant, le fait qu'ils soient toujours là.
Ils ont sorti un nouveau téléphone.
Non, mais justement, ils restent là. Moi je me demandais s'ils allaient rester en France, sur le grand public, hein, pas sur les infras. Et en fait, ils sont toujours là et continuent d'appuyer sur le grand public avec d'ailleurs des produits qui sont excellents, hein, les smartwatch, des écrans. Il y a un écran 3,5 avec des dimensions pour les journalistes, c'est absolument génial.
Ils se repositionnent sur des marchés où ils sont moins impactés par les punitions américaines.
C'est-à-dire en fait sur les objets connectés et sur le PC et
PC,
sur les écrans.
Et
je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça commence à faire peut-être 3 ans, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Et ils sont toujours là.
Là.
Et d'ailleurs, leur stand est aussi assez gros. Donc, je trouve que c'est intéressant quand même de noter que Huawei, côté grand public, est toujours là sur d'autres marchés que le smartphone.
Voilà, dernier mot sur Vivatex. Ce qui est formidable aussi, c'est les rencontres qu'on peut faire. Hein. C'est vrai que nous, on a de la chance d'être assez médiatisé, etc. On rencontre à la fois des auditeurs. C'est cool. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les petits messages et les petits coucous quand vous nous croisez, hein, que ce soit toi, Raphaël ou moi, c'est vrai que ça, c'est cool. Et puis aussi, c'est un accélérateur de business et c'est ça qui est bien. C'est qu'on voit qu'il y a du business qui se passe.
C'est
on voit que les startups rencontrent les grands groupes. Tout est fait pour que cet échange soit le plus fluide possible. Et c'est bien, ça.
Bien sûr.
Surtout dans cette période un peu troublée.
Bah, c'est un outil de réseautage énorme. Mais c'est ce que tu disais un peu au début, Raphaël. C'est-à-dire que tu as plein de gens que tu as au téléphone tout au long de l'année. Là, tu les rencontres. Enfin, voilà, tu fais deux allées. Tu as rencontré 10 personnes.
Comme le CES à Las Vegas.
C'est un gain de temps absolument dingue. Ouais, mais l'avantage par rapport au CES, c'est que là, on a 5 minutes pour y aller. Tu vois, non, mais le CES, il y a ce truc où, tu sais, tu traverses l'Atlantique pour aller parler à des startups françaises qui sont à 2 km de chez toi. Il y a ce truc qui est un peu bizarre et un peu frustrant, même s'il y a plein d'autres choses au CES, évidemment. C'est pas ça. Mais là, au moins, tu vois, on est à la maison. Tout le monde est là. Tout l'écosystème est là. Et du coup, c'est quand même
on peut prendre le temps.
Ouais.
Dernière chose, après on refermera cette page Vivatech pour s'intéresser un peu à l'actu quand même, parce qu'il y a eu des trucs assez sympas. c'est toute la dimension, on va dire, écologique et RSE hein, de ce salon, avec cette initiative intéressante d'EDF, je ne sais pas si vous avez suivi, EDF, dont la mission est de décarboner Vivatech. Mais tout décarboner Vivatech, parce que Vivatech, ça pollue forcément. Ça consomme de l'électricité, il fait chaud, il y a la clim, les voyages des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, etc. Et EDF, avec plusieurs start-up, ont décidé de décarboner Vivatech en installant des arbres. Ils ont carrément créé une forêt au sud de Paris qui va annuler, en fait, qui va compenser le carbone.
Les émissions.
Enfin, voilà, il y a des choses quand même assez sympas comme ça. Alors après, on peut estimer que c'est bullshit ou pas, mais ça mérite d'exister. Voilà.
Après, je n'ai pas trouvé qu'il y ait eu beaucoup d'accent mis sur la partie écolo quand on se balade dans les stands. Il y a un peu de tech for good, etc., mais l'aspect écolo n'est pas omniprésent cette année. Il y a un côté quand même un peu retour aussi à l'ancien monde. Après, parce que l'ancien monde est aussi électrique et voilà, donc c'est intégré. Mmh. Mais finalement, je trouve pas que ce soit si prégnant que ça cette année.
Vivatech, voilà, on a fait le tour. Bon, peut-être qu'on aura d'autres choses à vous raconter la semaine prochaine, on verra. Hein. Vous savez, ces salons, il y a une longue traîne. J'aimerais qu'on revienne sur l'actu. Tiens, Google est présent ici, hein, à Vivatech. Ils ont un stand où ils présentent quelques innovations, mais Google a été au cœur d'une actualité incroyable avec leur intelligence artificielle consciente qu'ils mettraient en avance. Alors bon, il y a eu plein de polémiques là-dessus parce que le patron de ce truc-là a été viré. Enfin voilà, tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et Raphaël complétera.
Avant de partir sur de faire flipper tout le monde, on met quand même des gros guillemets à conscience et puis on va expliquer. Mais effectivement, on a cet ingénieur qui s'appelle Blake Lemoine qui a été suspendu de chez Google. Il affirme qu'une intelligence artificielle, enfin qu'un algorithme sur lequel il travaillait depuis plusieurs mois, eh bien, avait pris conscience, avait développé une forme de personnalité, de sensibilité, c'est ce qu'il explique. Cette IA, elle s'appelle Lambda, c'est un agent conversationnel, donc un peu comme les assistants vocaux qu'on a à la maison, enfin en plus, hein, parce que là pour le coup il a été très très bien entraîné, donc un langage ultra naturel, etc. Et au bout de quelques mois, il se rend compte que cette IA, elle lui fait des réponses bizarres. Il a l'impression qu'elle développe une forme de personnalité. Et c'est vrai qu'il a publié quelques extraits, je vous les donne comme ça. Donc, il lui demande par exemple, est-ce que tu te considères comme une personne ? Oui, lui répond la machine, c'est un peu l'idée. Je pense être humain au plus profond de moi-même, même si mon existence est virtuelle. Ou encore, je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'ai une peur profonde qu'on m'éteigne. Ce serait l'équivalent de la mort pour toi? Oui, ce serait exactement comme la mort. Ça me fait très peur. Et cette IA va jusqu'à demander qu'on la traite non plus comme un objet, mais comme un salarié de l'entreprise Google. Bon, dans les échanges qu'elle a avec cet ingénieur. Alors forcément, bon, c'est un peu troublant quand tu te dis ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette IA est devenue consciente? La réponse est non, clairement. Il faut être clair sur ce sujet. C'est-à-dire que quand tu discutes avec tous les experts, peut-être 99,999% des connaisseurs en intelligence artificielle, parce que ça a beaucoup réagi, évidemment, hein, ils te disent que tout ça, c'est un cas classique d'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer à une machine des comportements humains.
C'est-à-dire qu'on va lui programmer des comportements humains.
En fait, le truc, c'est ça. C'est que cette machine, en fait, elle fonctionne trop bien. On lui a appris à interagir de la manière la plus naturelle qui soit avec des humains. Donc, faut pas s'étonner.
C'est du faux affect.
Mais exactement, en quelque sorte. C'est ça. Elle bosse, elle est hyper efficace parce qu'elle répond comme répondrait finalement un être humain. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a développé une forme de conscience. En tout cas, voilà. Mais le gars a été viré. Ou en tout cas mise à pied, il dit « on m'a viré parce que j'ai révélé ça ». Donc là, tu as toute la bonne recette pour une bonne théorie du complot.
Les complotistes, ils sont absolument fans. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on se pose la question du risque d'avoir une IA qui deviendrait consciente. Mais en fait, je pense qu'il y a un risque qui est encore plus grand. C'est le risque du comportement des humains qui pensent que l'IA est devenue consciente. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est...
qui pourrait changer notre comportement.
Et exactement. En fait, c'est finalement l'effet inverse, l'effet miroir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque à avoir des humains qui pensent qu'une IA est humaine? Et on voit que par définition, ça peut toucher tout le monde, puisque ça a touché quelqu'un de chez Google, un ingénieur spécialisé là-dedans. Exactement. Et donc cet anthropomorphisme, finalement, c'est un risque à part entière. Et le risque, il est peut-être beaucoup plus classique, c'est-à-dire pas d'avoir un jour Terminator, mais c'est d'avoir des gens qui deviennent un peu fous parce qu'ils sont persuadés d'être face à Terminator. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus concret. Et à mon avis, ça peut arriver beaucoup plus facilement. Alors, ça n'arrivera pas avec les chatbots qu'on a au service client des bois. Enfin, franchement, il n'y a pas de risque.
L'anthropomorphisme, c'est pas près d'arriver.
Ou alors, il faut qu'on soit foutu bizarrement.
Ouais. Si moi, je discute avec eux tous les soirs et
voilà,
je passe des heures.
A priori, ça, il n'y a pas de risque.
J'ai une relation très saine.
Mais le jour où on aura une IA qui va vraiment répliquer la façon de parler d'un humain, qu'est-ce qui va se passer pour la personne en face? Et c'est ça le risque. Pour moi, il y a un risque psychologique peut-être à être confronté à ce type d'IA. Tout et donc fait. Le risque, je pense, c'est pas l'IA, c'est comme souvent, c'est l'humain.
Surtout certaines personnes fragiles.
Exactement.
Qui peut-être rentrent dans le jeu.
Qui pourraient s'attacher.
C'est déjà le cas. C'est un super bon argument, je trouve. Parce que c'est déjà le cas avec, par exemple, tu sais, quand ils installent, et pourtant, c'est pas des IA ou des trucs ultra sophistiqués, des robots genre Pepper dans les maisons de retraite ou dans le. Il y a un lien qui se crée avec la machine. Et en fait, quand tu enlèves le robot, les personnes ont un manque affectif derrière. Enfin, y a vraiment ce truc. Hein. C'est tu crées une dépendance affective avec la machine. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça risque de poser des gros problèmes à l'avenir.
Bon, bah écoutez, pour l'instant, n'y croyez pas. Hein.
Non, en tout cas, cette IA, elle n'est pas consciente.
Non, voilà, elle n'est pas consciente. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Ravi de vous avoir accueillis ici sur le plateau de BFM Business et de Tech & Co. Pour cette première partie de Quoi je mêle et le club de la presse IT. Merci Anthony.
Merci à
merci
tous les deux.
Merci Raphaël.
Merci François.
Et vous restez avec nous. Deuxième partie de Quoi je mêle. On va être toujours ici à Vivatech et on va s'intéresser à l'e-santé avec nos trois invités qui me rejoignent tout de suite. À tout de suite.
De Quoi je mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je mêle. François Sorel.
Bien, merci d'être toujours avec nous. Deuxième partie de ce De Quoi je mêle, ici sur notre plateau de Tech & Co et de BFM Business. Et bienvenue à Vivatech, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies qui se déroule jusqu'à samedi, hein, si vous regardez ou écoutez De Quoi je mêle. Avant samedi, eh bien, sachez que en plus, samedi, c'est une journée qui est ouverte au grand public. C'est intéressant parce que voilà, vous pouvez venir découvrir évidemment toutes les innovations qui sont présentées ici. Ce qui est intéressant, et ça je vous le dis, c'est un petit secret, si vous allez sur le site de Vivatech, il y a des places gratuites à remporter, donc allez-y. Pour cette deuxième partie, on va parler e-santé, sujet passionnant bien sûr, qu'on va évoquer avec nos trois invités que je vous présente. Antoine Ténière, bonjour Antoine et merci d'être là.
Bonjour François, merci.
Directeur général de Paris Santé Campus. Marie Cotillet-Slou est avec nous aussi. Bonjour Marine.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de Lucine et Elidan Mimouni, directeur général de Medadom.
Bonjour François.
Voilà, deux startups donc dédiées à la médecine et à la tech. Et puis Antoine, qui met en musique tout ça. Vous êtes un peu un chef d'orchestre, hein, de la e-santé en France. Vous êtes le patron en quelque sorte de Paris Santé Campus. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est Paris Santé Campus?
Oui, Paris Santé Campus, c'est un centre unique qui accueille tous les acteurs qui ont vocation à transformer le système de santé avec des outils numériques. La santé ne fait pas exception. On a vu la musique, les transports et beaucoup, beaucoup d'autres innovations dans différents secteurs ici à Vivatech. Et donc, le Covid a montré à chacun comment le numérique pouvait être une solution essentielle pour répondre à un certain nombre de problématiques du système de santé, que ce soit dans la télémédecine, dans l'utilisation des tests informatisés, la recherche d'informations sur de la santé, etc. Le numérique aujourd'hui transforme profondément la façon dont chacun va discuter, échanger, aller chercher de l'information avec un professionnel de santé. Et donc Paris Santé Campus, c'est l'endroit où tout va se passer. C'est un endroit qui rassemble de façon unique des chercheurs, des soignants, des étudiants, des start-upers, des entreprises, des grands groupes et des institutions pour avoir vraiment une logique d'écosystème.
Voilà, donc c'est à la fois un centre de formation, d'innovation et puis surtout, pour tous ces ingénieurs, ces scientifiques qui viennent travailler chez vous, vous leur donnez cette petite étincelle entrepreneuriale pour qu'après ils puissent transformer leur bonne idée en business, parce que derrière tout ça, forcément, il y a du business, c'est capital, en fait.
Absolument. Les grands enjeux, c'est d'abord d'accompagner toute la stratégie autour de la donnée, d'accompagner la création de ces nouveaux métiers qui vont penser le numérique, de se focaliser sur tous les enjeux de création de valeur médicale et économique. Donc, on revient sur la question de la création d'entreprise, la création d'emplois, et puis faire monter des champions français comme Doctolib. Donc, l'idée, c'est d'avoir plein de nouveaux champions. Et Lucine et Medadom seront peut-être dans cette lignée-là.
On leur souhaite.
Et puis surtout, de penser l'impact positif que le numérique peut avoir pour le système de santé. C'est essentiel. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle et des risques qu'elle peut amener. Avoir une préoccupation sur la façon dont on peut donner des garanties à chacun que ces nouveaux outils vont amener des aspects positifs, c'est absolument essentiel.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce Paris Santé Campus regorge de bonnes idées. Vous avez même une cabine de télémédecine à distance qui est assez étonnante. Voilà, ça grouille, on va dire. Et puis, on se rend compte aussi que, comme vous le disiez, avec le Covid, tout a été accéléré en quelque sorte. Il faut penser, imaginer l'hôpital de demain, on est d'accord, qui est en mauvaise posture, vous le savez mieux que moi. C'est là aussi qu'on est en train de réinventer le système médical de demain.
Alors, on pense l'hôpital de demain, mais surtout, on pense en dehors de l'hôpital. Parce que l'évolution du système de santé, c'est la prévention.
Voilà, l'hôpital de demain, c'est le dernier checkpoint, en fait. Et il vaut mieux éviter d'y arriver.
Exactement. Et donc, ce qu'on voit qui est évidemment très parlant et très concret, c'est les innovations du bloc opératoire, les innovations de certains nouveaux médicaments, etc. Mais au-delà de ça, le grand mouvement, c'est justement d'éviter que les patients aillent à l'hôpital.
La prévention.
La prévention et de développer tous les outils où le numérique va être un levier essentiel pour faire en sorte à la fois d'accompagner les patients en dehors de l'hôpital et surtout de pouvoir mesurer, suivre, monitorer des parcours de soins qui vont éviter à des patients d'aller à l'hôpital.
Antoine, des Apple, des Google, des Samsung, des Huawei qui sont juste là derrière, c'est des amis ou des ennemis en fait de la santé, à votre avis ?
On discute avec tout le monde, c'est très important de comprendre d'où vient l'innovation, quelles sont les bonnes idées. Après, il y a la question du partage, et notamment du partage des données. Et donc, on ne partage pas forcément avec tout le monde. L'enjeu, ensuite, c'est d'avoir des projets, de comprendre comment on va partager de la valeur et comment est-ce qu'on va imaginer des projections communes. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit. Évidemment, l'enjeu, c'est d'accompagner des jeunes entreprises, des jeunes chercheurs français et européens. Et en ce sens-là, il y a en ce moment un mouvement extraordinaire de coordination à l'échelle européenne qui permet de se dire que Apple, Google et d'autres qui ont tous commencé avec des petits pas, ben on est en train de les faire monter en Europe. Et ça, c'est essentiel.
Très bien. Alors, j'imagine que vous avez arpenté les allées de ce salon. Beaucoup d'innovations en matière de e-santé.
Énormément d'innovations dans tous les sujets, à la fois dans les questions d'accès aux soins, la façon justement dont les patients vont échanger avec des professionnels de santé. Beaucoup d'éléments autour du diagnostic. Vous parliez tout à l'heure là aussi de l'intelligence artificielle, la performance qui va être améliorée à travers les images. Beaucoup d'éléments sur des thérapies digitales. C'est absolument fascinant de voir la vitesse exponentielle de ces innovations. Un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à corréler la vitesse de l'innovation avec la vitesse de l'usage et de la régulation, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui arrive puisse aller rapidement rendre des services au quotidien à chaque patient.
Alors, vous êtes venu avec deux startups, voilà, que vous voulez nous présenter, que vous vouliez nous présenter dans De quoi je mail. On va les découvrir tout de suite. Marie Cotier-Sloux, donc présidente générale de Lucine. Alors, présentez-nous Lucine, s'il vous plaît.
Alors, bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc Lucine, c'est une entreprise qui fabrique des thérapies numériques capables d'agir sur la douleur chronique. Et de manière générale, on a choisi une première indication qui nous tenait beaucoup à cœur, qui sont les douleurs chroniques pelvipérinéales liées à l'endométriose. Autrement dit, les douleurs intimes de ces femmes. L'endométriose aujourd'hui, c'est 10% de ces femmes, 10% des femmes au niveau du monde. Et malheureusement, c'est aucun traitement qui permet véritablement d'avoir une action sur leur douleur au quotidien.
D'accord. Et alors, comment vous arrivez justement à pallier à ça ? Comment faites-vous ?
Alors, comme j'ai tendance à dire, Lucine, c'est le nom d'une déesse qui, quand les femmes subissaient les douleurs de l'accouchement pendant l'Antiquité, elle répétait trois fois le nom Lucine. Et au bout de la troisième fois, leur douleur disparaissait comme par magie. Alors nous, c'est plus de la magie maintenant, c'est de la science. C'est de la neuroscience, plus spécifiquement. Et on va utiliser des fréquences sonores, visuelles, des séquences en trois dimensions également par casque de réalité virtuelle, des thérapies cognitivo-comportementales qu'on a retravaillées et qu'on a mis à peu près 8 ans, parce que c'est une formule égale 8 ans de travail, pour pouvoir agir spécifiquement sur certains neurotransmetteurs du cerveau en les bloquant ou les excitant.
C'est-à-dire que finalement, si je schématise, vous allez stimuler le cerveau d'une certaine manière qui va faire qu'on oubliera certaines douleurs.
Alors, on ne va pas l'oublier. On va faire en sorte, comme un antidouleur conventionnel, on va faire en sorte que votre corps permette à ce message de devenir acceptable. Et donc, cliniquement, ça se traduit par une réduction de la douleur significative. Ça se traduit aussi par une réduction de la douleur dans le temps. Parce qu'effectivement, ne plus avoir mal pendant 30 minutes quand on a de la douleur chronique, malheureusement, ce n'est pas très impactant. Ne plus avoir mal pendant plusieurs jours, c'est beaucoup plus intéressant.
Alors, vous vous focalisez sur l'endométriose, mais la douleur, elle est tout autre. Ça veut dire que vous travaillez aussi sur peut-être d'autres stimulations qui feraient qu'on pourrait peut-être réduire certaines douleurs, d'autres pathologies.
Tout à fait. On a choisi l'endométriose parce qu'on a une fonction aussi sociale en tant qu'entreprise dans la santé.
D'accord.
Mais effectivement, nous travaillons aujourd'hui sur d'autres types de formules qui permettront à terme, on l'espère, parce que ça reste de la science. Donc je veux bien le dire aux patients qu'on fait tout pour que ça marche, mais je ne peux pas promettre encore aujourd'hui. En tout cas, on essaye de faire en sorte de trouver des formules qui puissent agir d'ici 4 ans sur 25% de la population mondiale, à savoir les personnes qui souffrent de douleurs chroniques indépendamment de la pathologie sous-jacente.
À la place des anti-inflammatoires, par exemple ?
À la place des médicaments de manière générale, anti-inflammatoires, opioïdes, et avec un avantage qui est un niveau d'efficacité équivalent, ça c'est pour nous très important, voire supérieur sur certaines indications médicales, mais sans effet secondaire ni accoutumance.
Antoine, ce qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, on se rend compte de la puissance du cerveau qui arrive, grâce à certaines stimulations, à empêcher de prendre certaines molécules, on va dire artificielles, pour réduire la douleur. C'est fou.
Absolument, c'est fascinant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la problématique est extrêmement importante. En France, on la mesure, mais aux États-Unis, par exemple, la prise d'antalgiques, et notamment d'antalgiques qu'on appelle majeures, est une des premières causes d'accoutumance, voire de décès, exactement.
On sait que ça a été un scandale avec des centaines de milliers de personnes qui sont dépendantes de ça. Hein.
Exactement. Et donc arriver à trouver des solutions pour résoudre ces problématiques-là, c'est absolument essentiel. Et puis après, c'est fascinant de voir comment la recherche sur les neurosciences, la compréhension des voies de la douleur, permet de proposer à partir du numérique des solutions tout à fait concrètes.
À partir du numérique, et on se rend compte que finalement, les ressources du corps humain sont... pour certaines encore inexplorées. On le voit avec vous finalement.
Tout à fait. Et c'est important de dire que on parle des États-Unis, mais la France et l'Europe a vraiment un vrai enjeu sur la neurophysiologie et la neuroscience. On a vraiment des joueurs au niveau de la science fondamentale extraordinaires sur ce secteur. Et c'est grâce effectivement à des acteurs comme Paris Santé Campus qu'on peut avoir accès à ces chercheurs et faire en sorte effectivement que ces solutions soient françaises et inondent le monde.
D'accord. Quelle est la relation que vous avez par exemple avec Paris Santé Campus ?
Les chercheurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Avec Antoine, on travaille sur deux aspects. Le premier, c'est permettre de faire connaître les thérapies numériques, aussi bien sur la partie diagnostic que sur la partie traitement au niveau de la France, parce que c'est un élément qui est effectivement très important. Il y a encore beaucoup de questions, notamment réglementaires, parce qu'effectivement, je suis capable de choisir pour vous, que vous n'ayez plus de douleur, mais vous n'en avez peut-être pas envie. Donc, il y a des questions éthiques, par exemple, qui se posent sur les neurotechnologies. Et puis, le deuxième élément, en tant qu'entreprise, Paris Santé Campus nous offre un écosystème qui est unique aujourd'hui en Europe, qui va nous permettre, effectivement, de prendre le marché européen, qui va nous permettre de nous faire connaître et surtout d'avoir accès à nos chercheurs, à cette qualité exceptionnelle qu'on a sur notre territoire et qui n'est pas toujours facilement accessible pour des startups.
Merci beaucoup, Marine. On donne la parole maintenant à Elie Dadmilmouni avec Medadom. Alors là, on est sur un sujet qu'on évoque de plus en plus, qui commence à rentrer un peu dans la société. C'est la téléconsultation, c'est ce que vous faites chez Medadom. Est-ce que vous pouvez nous présenter Medadom ?
Merci François pour l'invitation. Alors chez Medadom, on a pour mission de rendre accessibles les soins au plus grand nombre à travers la téléconsultation. On a deux grands modèles. Le premier, donc c'est une plateforme qui met en relation des professionnels de santé avec des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés.
Oui.
Une application mobile et web et des bornes et des cabines de téléconsultation munies d'objets connectés.
Très bien. Alors vous en êtes où aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que les téléconsultations ont explosé pendant la pandémie, c'est clair. Comment vous l'imaginez et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement ? Vous faites du matériel, vous faites des services ?
Aujourd'hui, on est à la fois entre On a trois grands dispositifs, c'est à la fois du software, d'hardware et un service médical. Donc c'est ce qui fait en fait notre vraie plus-value aujourd'hui sur le marché et notamment sur le marché français, puisqu'on peut proposer et promouvoir de la téléconsultation à travers le logiciel, les objets connectés et surtout les médecins qui sont référencés sur la plateforme pour permettre de proposer des soins à l'ensemble de la population générale.
Alors racontez-nous comment se passe une téléconsultation avec votre solution.
Alors c'est très simple, une téléconsultation en borne ou en cabine de téléconsultation, le patient entre en officine et puis a directement accès à une borne ou une cabine de téléconsultation une fois orienté par le pharmacien si nécessaire. Et puis le patient s'enregistre et a accès directement à un médecin en moins de 10 minutes. Il y a un colloque singulier qui se fait, il y a un échange entre le patient et le médecin. Le médecin a la possibilité de piloter les objets connectés à
Alors,
distance.
Le médecin, on le voit sur une télé.
Tout à fait. Le médecin, on le voit en grand écran sur une télé. Il y a un colloque singulier qui s'établit. Et puis le médecin va piloter vraiment ces objets connectés, ce qui va permettre de donner une autre dimension à la téléconsultation et d'avoir des capteurs et des constantes qui vont permettre de mieux orienter le diagnostic et ainsi d'affiner le diagnostic pour permettre une meilleure efficacité dans la prise en charge médicale.
Quel type de capteurs on retrouve dans votre dispositif ?
Alors on a 6 dispositifs médicaux. On a le tensiomètre pour la tension, on a le saturomètre pour l'oxygénation, on a le thermomètre pour la température corporelle et ensuite on a un otoscope qui permet d'observer le tympan de l'oreille, un dermatoscope pour les lésions cutanées, pour savoir quel type de lésions cutanées sont sur la peau. Et ensuite, on a un lecteur cardiaque et un stéthoscope, excusez-moi, pour écouter les bruits du cœur et qui vont permettre vraiment d'orienter la pathologie du patient en téléconsultation.
On évoquait tout à l'heure le fait de désengorger les hôpitaux et d'éviter en fait que les gens aillent dans un hôpital. C'est peut-être la première solution que vous évoquiez. Typiquement, ces cabines de téléconsultation facilitent ça, non, Antoine ?
Absolument, c'est un très bon exemple justement des solutions qui peuvent être proposées pour faciliter l'accès aux soins dans certains territoires, avec l'enjeu, comme je le disais, d'arriver à trouver les bons équilibres, parce qu'aujourd'hui les patients n'y sont pas forcément habitués, les médecins n'y sont pas forcément formés, et puis on a des questions aussi de régulation, savoir qui va pouvoir y accéder et dans quel cadre. Et donc c'est tout le travail qu'il faut accompagner pour faire en sorte que ce type d'initiative devienne vraiment complètement classique.
On en parlait tout à l'heure dans De quoi je me mêle, l'ordre des médecins parfois n'est pas tout à fait... compatible avec ce type d'objet parce que voilà, on peut en mettre maintenant dans des supermarchés, etc. Il faut malgré tout sanctuariser, à votre avis, ces endroits-là ou justement en mettre partout.
Alors la question est surtout comment est-ce qu'on répond aux besoins de santé de la population. Et donc cette approche-là en fait partie. Il y a évidemment un enjeu pour les professionnels de santé de faire en sorte que ça se fasse, et pour les patients, dans des bonnes conditions, avec des outils qui sont validés, qui sont évalués. Néanmoins, on ne peut pas attendre 5 à 10 ans des évaluations trop longues. Il y a des besoins qui sont tout à fait immédiats. Donc il faut arriver à positionner les bons modèles. Je pense que la réflexion, elle se porte avec les professionnels, avec les patients, avec les citoyens et avec leurs représentants, et qu'elle doit émerger rapidement. On a vu pendant le Covid, on est passé de quelques milliers de téléconsultations par mois à plusieurs millions par semaine, que les outils technologiques arrivent à maturité, et Medadom en est un bon exemple. Et donc je pense qu'on va arriver ensuite à trouver un équilibre qui permettra de faire en sorte que dans certaines régions où il y a des difficultés d'accès aux soins, eh bien on puisse avoir soit dans des espaces sanctuarisés, soit dans des centres spécifiques, l'accès à un professionnel avec ce type d'outils.
Voilà, en gros, OK pour les télécabines, mais pas partout.
C'est pas n'importe comment, en tout cas.
Pas n'importe comment, voilà, en tout cas.
Exactement.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci Antoine d'être
merci,
passé
François.
Par le plateau de quoi je me mêle, directeur général de Paris Santé Campus. Marine Cotillé-Sloux, donc présidente de Lucine.
Merci.
Et Élie Dane Mimouni, directeur général de Medadom. Eh bien voilà, De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis sur la nouvelle chaîne Tech & Co que je vous invite à découvrir, bien sûr, sur les box opérateurs, mais aussi ce week-end sur BFM Business. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Merci de nous suivre. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.